Donc, parler de la vie de Fantômas, c'est tenter de saisir une vie insaisissable. La vie de Fantômas est à l'image de ce qu'a été le maître du crime durant toute son existence, donc une vie mystérieuse, contradictoire, trompeuse. Sa biographie comporte autant de manques que de mensonges. Souvenons-nous simplement des derniers mots du père de Fandor dans Le Faiseur de Rennes. Écoutons-le. Fantômas est le génie du crime. Fantômas est l'insaisissable. Fantômas se dit maître du monde. Et Fantômas, jusqu'à présent, a toujours triomphé. Mais il est un moyen de le confondre et de l'abattre. Et Fantômas, mon enfant, sera à ta merci, comme à la merci de tout le monde, lorsqu'on saura son nom. Fandor, mon enfant, le nom de Fantômas, c'est... En vain, Jérôme Fandor attendait-il la fin de la phrase. Étienne Rambert avait rendu le dernier soupir. Bien évidemment, vous reconnaissez cette frustration du lecteur qui voit l'information attendue lui être brutalement subtilisée directement sous son nez. Pierre Souvestre et Marcel Alain n'ont livré que par bribes des informations toujours lacunaires. Cela se comprend. Nous ne sommes pas devant un roman psychologique, nous ne sommes absolument pas devant un roman réaliste. Nous ne sommes plus dans la tradition du roman populaire qui fait des origines du héros un moment fort, un moment clé, un des objectifs de l'intrigue. Bon, quand on songe aux conditions d'écriture, à leur rythme effréné de production, il est certain que les deux hommes ont surtout fait des révélations au fur et à mesure des besoins, quand l'intrigue demander de tels éclaircissements, quand de nouveaux mystères permettaient d'ouvrir de nouveaux chemins narratifs et continuer ainsi d'alimenter, la machine à créer la fiction. Autrement dit, la révélation biographique est toujours liée non pas au personnage qu'elle épaissirait, mais à l'intrigue qu'elle développe. On peut alors s'interroger sur le rythme de ces révélations, sur ce qu'elles nous apprennent, sur la structure du roman. On peut même se demander quelle est la part de chacun des deux auteurs dans la construction du personnage de Fantômas. Qui est-il derrière le masque ? Bon, cela dépasserait peut-être l'objectif de cette communication, et nous allons plutôt nous concentrer sur les éléments de la biographie de Fantômas telle qu'elle apparaît dans les textes. Ce travail a été celui que j'ai mené dans les nombreuses vies de Fantômas. J'y ôte simplement les éléments de fiction que j'avais ajoutés afin d'insérer l'histoire de Fantômas dans l'histoire H majuscule réelle. Donc, nous disions, l'ensemble de l'intrigue repose sur un mystère. Qui est ce Fantômas, le bien nommé ? Connaître le nom, c'est l'arrêter. Il n'y a pas d'histoire judiciaire, d'histoire de procès. Le nom seul a cette capacité-là presque magique de l'arrêter. On est dans la tradition du bandit masqué, une tradition que nos auteurs utilisent ici assez opportunément, avec l'originalité que nous n'en saurons jamais rien. Nous avons 32 romans qui ne nous donneront aucun élément permettant de savoir qui, finalement, est Fantômas. Ces romans s'achèvent sans que le masque ne tombe jamais. Mieux, cette thématique essentielle, celle qui nourrit notre curiosité de lecteur, cette thématique qui porte du rythme, qui relance les intrigues, va être, in fine, mise de côté pour une révélation ultime dans les toutes dernières pages du dernier roman intitulé La fin de Fantômas, quand, juste avant de mourir dans le naufrage du paquebot le Gigantique, Fantômas déclare à son ennemi juré, le policier Juve, « Ton frère Juve, ton frère jumeau, c'est Fantômas. » Oui, Jean Marais est le frère jumeau de Louis Funès. Intéressant. N'oubliez pas que Fantômas a été écrit à quatre mains par Pierre Souvestre et Marcel Alain. Nous savons que ces dernières pages sont l'œuvre de Pierre Souvestre. Marcel Alain se souvient, je cite, « J'avoue franchement que cette invention n'était pas prévue dans notre plan et j'en suis encore à me demander quelle idée Pierre avait derrière la tête. » Pierre Souvestre est mort peu de temps après l'écriture du dernier volume. Et on peut, voilà, nous sommes dans l'expectative. Il est révélateur que Alain laissera de côté cela quand il reprendra en solo la série des Fantômas avec un succès quand même relativement noir. Revenons néanmoins sur cette idée superbe, parce que l'effet produit est immense. Donc le roman s'achève, 32 romans, qui n'en constituent qu'un seul finalement, et la révélation attendue par les lecteurs ne viendra pas. Juve et Fantômas, dans leur affrontement final, qui se poursuit, alors que, imaginez ce paquebot qui s'enfonce dans les eaux sombres de l'Atlantique, ils se battent et ils continueront à se battre alors que le livre s'achève et qu'il n'y aura pas de suite. Fantômas devient immédiatement un mythe. Le mythe qui est celui de la première couverture imaginée par Gino Staras, mythe qui est toujours présent quand je vois l'affiche du festival qui nous réunit aujourd'hui. Ils disparaissent dans les eaux, emportent leur mystère et s'enfoncent dans un hors-texte, c'est-à-dire cet espace qui suit la fin du roman, qui est celui de l'imaginaire du lecteur, peut-être. Néanmoins, nous avons des petits bouts d'informations. Du père, on ne sait rien. Fantômas ne parle pas de son père. De la mère, nous aurons simplement un prénom, Anne-Marie. Un prénom composé pour deux frères jumeaux qui finalement auront poussé à l'extrême les troubles de la gémilité, l'un devenant le champion du crime, Fantômas, l'autre le champion de la justice, Juve. Alors, bien évidemment, il est totalement impossible de savoir à quel moment de la série des 32 romans Souvestre a décidé que les deux personnages étaient frères. Est-ce qu'il a eu cette idée-là quand il réfléchissait au 17e, au 24e? On n'en sait rien. Disons que cette conclusion semble naturelle quand on constate le nombre de fois dans la série où Fantômas prend la place de Juve, où Juve se déguise en Fantômas, où les deux hommes partagent en commun, et je vous assure qu'il n'y a aucun mauvais esprit de ma part, le même goût pour le travestissement, leur foi dévorante dans leur mission, chacun croit dans ce qu'il fait, une mission qu'ils se sont donnée à eux-mêmes. Nous avons deux personnages, deux frères, qui sont tous des êtres possédés, d'une certaine façon. Parlons brièvement de Juve. Il n'a strictement aucun passé. Il mène une vie totalement dédiée à la justice, c'est-à-dire à sa conception de la justice, qui se résume très rapidement à la seule poursuite de Fantômas. Dans les premiers romans, il est le seul à penser que Fantômas existe. Dans les romans suivants, il est à la tête d'un service de la sûreté qui est consacré à la lutte contre Fantômas. Plus intéressant, Juve est le père adoptif du jeune Charles Rambert, alias, et là vous connaissez ce nom, Jérôme Fandor. En effet, c'est Juve qui va le baptiser du nom de Fandor dans le premier roman, suite à la destruction de sa famille par Fantômas. Intéressant, si Juve devient un père adoptif, eh bien, il a toujours Fantômas comme parrain. Parce que nous avons Juve qui cherche un nom. Comment est-ce qu'on pourrait te baptiser pour que Fantômas ne te retrouve pas? Il a détruit tous les tiens, il faut qu'on trouve un nom. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Fan. Voilà, Fandor. Donc on a Fandor qui devient un journaliste réputé. Mais nous avons donc ce même besoin qui apparaît. Celui de se constituer une famille d'adoption. Allons voir l'autre frère, on a beaucoup plus de choses à dire. Jamais nous n'aurons une biographie de Fantômas. Nous avons des passages qui vont donner des petites évocations biographiques, mais nous n'avons pas un narrateur qui intervient pour prendre en charge un retour en arrière où il nous dirait « voilà la vie de Fantômas telle qu'il faut l'avoir, telle qu'elle a eu ». Les apparitions apparaissent dans quelques romans, et à chaque fois, l'histoire va être liée à l'apparition d'un personnage secondaire majeur. Alors, ce sera Fandor, ensuite nous aurons Hélène, la fille de Fantômas, ou Vladimir, le fils de Fantômas. Et chacun d'eux va rencontrer d'anciens complices repentis, d'anciens complices toujours en activité, des témoins clés qui, eux, se souviendront et qui, eux, donneront des éléments. Finalement, ce sont eux, les enfants de Fantômas, qui nous permettent de comprendre en creux la biographie du plus grand criminel que le monde ait jamais connu, et peut-être que son plus grand vol aura été de parvenir à voler sa propre histoire. Donc nous avons une biographie qui se construit sans ordre, sans logique, des pistes, mais souvent des pistes contradictoires. Je vous rappelle que les livres sortaient au rythme de un par mois, donc on peut souvent excuser les auteurs de ne pas se souvenir de ce qu'ils avaient pu écrire 7, 8, 10 mois auparavant. Et finalement, nous restons constamment, en tant que lecteurs, exactement au niveau de ce que découvrent, de ce que déduisent, de ce qu'imaginent les personnages. Malheureusement, en restant à leur niveau, nous en savons autant qu'eux, c'est-à-dire bien souvent, pas grand-chose. Alors, nous avons ce point de départ, Anne-Marie, qui apparaît donc dans les toutes dernières pages. Nous savons qu'elle était belle, qu'elle était honnête. Donc, des caractéristiques pour une jeune femme de 1913 qui était appréciable. En outre, Fantômas déclare dans cette dernière confession que la naissance des jumeaux eut lieu 45 ans plus tôt. Dans le dernier chapitre, tout d'un coup, Fantômas a un âge. On avait lu 32 romans, et tout d'un coup, il a un âge. Ce qui, paradoxalement, fait de lui presque un être humain, en tout cas soulève un bout du masque. Pour le reste, au fil de l'histoire, nous avons quelques fils qui nous permettent de découvrir l'existence de Fantômas avant Fantômas. Des fils qui vont venir d'Inde, des États-Unis, d'Afrique du Sud. Ils nous apprennent qu'avant de devenir le maître du crime, Fantômas s'est formé à travers le monde. Comme si l'histoire de celui qu'on appelait Gurn, c'est un des rares noms que l'on connaît de lui avant qu'il ne se fasse appeler par Fantômas, comme si cette histoire-là ne pouvait se dérouler qu'en dehors de France, mais comme si, à contrario, celle de Fantômas devait se dérouler uniquement en France. Bon, encore une fois, ce sont des traces. Un exemple parmi mille. Fantômas a été forçat. Il le dit à Juve dans Le Faiseur de Rennes. Il dit quelque chose comme « Cela sert à quelque chose, Juve, d'avoir été forçat dans un pays où l'on porte encore le boulet rivé au pied. » Sauf que on ne nous dira pas pourquoi il a été envoyé au bagne, dans quelles circonstances, ou ce qui pourrait nous intéresser un petit peu plus, comment est-ce qu'il a pu s'évader. On doit accepter cela. On accepte le mystère. Cela appartient de la construction du mythe. Un autre exemple. Dans le Train perdu, qui est le 21e roman de la série, l'action se déroule dans une confédération fictive d'Allemagne appelée Eisweimar, gouvernée par le bon roi Frédéric Christian II. Sa capitale, vous le savez comme moi, c'est Glotzburg. Donc, à la cour de Eisweimar était apparu l'archiduc, Juan Nors, un nom étonnant, qui épouse la tante du roi, qui a un fils, qui sera donc cousin du roi. Or, ce roi de Norse, un jour, va disparaître dans des circonstances mystérieuses. Un scandale a lieu, On sait juste qu'un scandale a lieu, que tout le monde sait que ce scandale a lieu. D'ailleurs, comme tout le monde sait que ce scandale a lieu, il n'est pas nécessaire de le raconter au lecteur. Je cite cet archiduc qui, brusquement, un beau jour, avait disparu de la cour de Eisweimar, renonçant à ses titres, à ses prérogatives, à sa fortune, quittant sa famille, son pays, ses charges, laissant croire à sa mort, se retirant du monde. Bien évidemment, c'était Fantômas. Sauf qu'à l'époque, il n'était pas encore Fantômas. Il faisait ses premières armes. Donc il avait infiltré la cour, avait séduit et épousé, et fondé famille, puis il était parti. Parti pour où, parti comment, on ne sait pas. Il a laissé un fils. On reviendra sur lui tout à l'heure. Autre fil, les États-Unis. Donc, Fantômas, sous quelle identité, on n'en sait rien. Souvenez-vous de la citation tout à l'heure. Il rencontre Charles Rampère, qui faisait, comme tout le monde aux États-Unis à l'époque, qui faisait fortune. Les deux hommes sont associés. Et Rampère se souvient avoir rencontré, je cite, « un homme délicieux et charmeur, aux manières séduisantes, et pour laquelle il ne tardait pas à éprouver la plus vive des sympathies. Malheureusement, et je reprends la citation, « cet homme était un monstre qui le dupait complètement, et qui, non content de le ruiner, de s'emparer de ses biens et de sa fortune, mettait encore le trouble le plus affreux dans son existence privée, lui enlevant tout, absolument tout, jusqu'à sa femme, jusqu'à son enfant. » parce que Fantômas va prendre littéralement sa place hein, jusque dans le lit familial. Et ça sera tout. Donc Fantômas est passé en Europe, il a fréquenté les cours royales. Fantômas est allé aux États-Unis où il a fréquenté les milieux et il a commencé à s'emparer et à prendre l'identité des biens et des personnes. Par la suite, il va partir au Mexique, il va descendre un petit peu, où il va fonder une organisation criminelle, cette fois, une véritable organisation qui va avoir comme seule finalité de protéger ses trésors. Vous imaginez bien que si Fantômas vole, il a une immense fortune, et que comme il vaut mieux faire les choses d'une manière compliquée, il envoie tous ses biens outre-Atlantique pour qu'ils soient cachés au Mexique. Dans le lit d'une mystérieuse et inviolable cachette, une rivière perdue dans une vallée déserte, au milieu des montagnes quasi inexplorées d'un pays sauvage, presque inaccessible. Bien évidemment, mais ça c'est pour la petite histoire, le capitaine du navire chargé de transporter l'or, les bijoux, les billets, tout ce que vous pouvez imaginer, est systématiquement exécuté dès qu'il livre ses caisses afin que le secret soit conservé. Europe, États-Unis, Mexique. Et nous allons continuer à descendre, nous allons en Afrique du Sud, dans le Transvaal, où Fantômas va monter une affaire de diamants cette fois. On l'appelle Gurn. Et il y mène une vie faite de vols, de grande criminalité. Sauf que la guerre va survenir, la guerre entre les indépendantistes et la couronne britannique. Fantômas va prendre le parti de la couronne, et malheureusement, c'est eux qui vont perdre. Donc, il va trahir, joyeusement, je passe sur certains détails, mais dans cette Afrique du Sud désolée, il va rencontrer une femme à Pretoria, avec elle, il va avoir un enfant, une fille. Cette fille, il l'appelle Hélène. Une vie faite de pillage, de vol et d'arnaque autour du diamant. Le problème posé par la naissance de la fille d'Hélène, enfin la fille de Fantômas, Hélène, c'est que nous avons là un secret que Fantômas va vouloir garder absolument. Comme s'il avait conscience qu'il était promis à une haute destinée, il veut protéger cet enfant. Donc pour la protéger, tous ceux qui vont connaître le secret sont à terme condamnés à mort. Ce qui fait que systématiquement, quand dans les livres on va évoquer les mystères qui entourent Hélène, nous allons avoir des témoins qui vont mentir, soit pour se protéger, pour protéger Hélène, ou pour plaire à Fantômas. Fantômas trahi, rejoint dans un dernier temps les troupes britanniques, où il fait carrière pendant quelque temps. Il devient même sergent. Et il rencontre ce qui sera la, peut-être la femme de sa vie, Lady Beltham. Bon, le problème, c'est qu'elle est mariée. Ils vivent une liaison passionnée. Le mari de Lady Beltham est rappelé en France. Et Fantômas décide de la suivre. Problème, il doit abandonner sa fille derrière lui. Donc, Fantômas va aller voir la vieille Laetitia. On ne connaît pas son nom, c'est juste une vieille Laetitia. Qui sera toujours vieille quand 20 ans plus tard, il va la retrouver. Hein. Donc, il va voir la vieille Laetitia pour lui donner son enfant, enfermant dans un coffret un crâne qui contient tous les documents et papiers de la famille. Il pense pouvoir revenir bientôt la chercher. Le problème, c'est que Gurn va arriver en France où, rapidement, il va devenir Fantômas. Et pris par les affaires de la multinationale Fantômas, il ne va pas pouvoir récupérer sa fille. Bon, le problème, et là je vais essayer d'être clair, c'est qu'entre-temps, Laetitia a compris que Fantômas, c'était Fantômas. Donc, que ce n'était pas quelqu'un de recommandable et qu'elle n'avait pas envie de lui laisser cet enfant. Donc, elle va faire une substitution. Elle va prendre un autre enfant et faire un échange. Manque de chance, elle va choisir la fille, enfin l'arrière-petite-fille du roi des Indes pour remplacer l'enfant de Fantômas. Bon, alors, pour le lecteur, se posent des problèmes insolubles de chronologie. Si vous voulez, quand la première fois qu'Hélène apparaît, c'est une adolescente. Quelques romans plus tard, c'est une jeune femme en pleine maîtrise d'elle-même, énergétique. En un mot, elle a gagné quelques années afin qu'elle puisse devenir la compagne idéale pour Jérôme Fandor. Et certains éléments sont passés rapidement à la trappe. Parce que Fantômas avait tout prévu. Donc, s'il abandonne son enfant, il lui fallait trouver le moyen pour être sûr de pouvoir la retrouver un jour. Donc, il avait fait tatouer le nourrisson. Il lui avait fait un petit tatouage sur la nuque, minuscule, microscopique, une petite tête de mort. Et il est vrai que, des années plus tard, Hélène a le tatouage en forme de tête de mort sur la nuque. Le problème, c'est que 10 romans plus tard, on nous apprend qu'Hélène, c'est la petite fille du roi des Indes. Et comme entre-temps, les auteurs ont dû oublier cette histoire de tatouage, hein, les choses avancent. Écoutons Fantômas, quand même, il faudrait lui laisser la parole un peu. Donc, Fantômas qui parle à Laetitia juste avant de la tuer d'une façon horrible. Je t'avais confié ma fille, mon enfant, ma petite Hélène, avant de partir à la conquête du monde. Et tu m'annonces froidement aujourd'hui que cet enfant a disparu, que tu ne peux pas me la rendre, Laetitia. Tu m'annonces cela alors qu'après 10 années de lutte, 10 années de danger, 10 années d'horreur, je suis devenu, moi, le pauvre bougre d'alors, le roi du meurtre, le maître de la mort, le crime insaisissable. Souvestre et Alain adore les rythmes ternaires et les énumérations qui permettent de gagner quelques lignes supplémentaires. Mais dans la citation, il dit bien, ça fait 10 ans qu'il est parti. Alors, je veux bien que Jérôme Fandor tombe amoureux de la fille de Fantômas, enfin, celle qu'il croit être la fille de Fandor, une petite fille de 10 ans. Voilà. Donc, on a vraiment une logique interne qui ne fonctionne pas. Alors, on a le choix. Soit on dit que ce sont des auteurs distraits, pris par le temps, et qui se disent que, de toute façon, les lecteurs ne reliront pas les livres précédents. Soit on se dit que, ma foi, ce Fantômas est vraiment très fort. et qu'il a réussi à nous manipuler tous. Une petite note en passant, Hélène, donc élevée par Laetitia, a été élevée comme étant un garçon. Tout le monde l'appelait Teddy. Et on a un autre personnage qui aussi va être marqué du signe du double. Hélène a eu une double identité, Jérôme Fondor une double identité, Juve et Fantomas des jumeaux. Bon, comme on y est, autant vous parler un peu du roi des Indes quand même. Toujours dans le dernier volume, Hélène rencontre en banlieue parisienne Beljapur, et dès qu'elle rencontre cet homme, cet indien, elle sent d'une manière confuse qu'elle savait devoir respecter, aimer plus que tout autre homme cet homme. Plus que tout au monde, pardon, cet homme. C'est le souvenir du nourrisson qui se rappelle une filiation qui apparaît tout d'un coup. Beljapur est le fils du roi des Indes, chassé de son trône par les Anglais. Il a vécu dans la misère, l'anonymat à Paris, et cherche, comme tout roi déchu, un moyen alchimique afin de faire de l'or pour pouvoir renverser la couronne britannique. Donc Beljapur de raconter à Hélène son histoire, comment son fils, certain syndic, l'avait eu, et comment, afin de la protéger, les serviteurs l'avaient enlevé un soir d'Inde et l'avaient amené ailleurs, donc en Afrique du Sud. Comment, pourquoi, on n'en sait rien. On est dans l'exotisme, hein, on est dans le rythme. Le principal, c'est que cette héroïne se trouve ainsi dotée de toute une série de paternités, donc la paternité de Fantomas, puis après elle apprend que finalement elle est la petite fille du roi des Indes, mais elle décide de ne pas jouer de sa prérogative pour le trône et de rester l'épouse de son mari de Jérôme. Bon, même si le mariage sera annulé par la suite, mais là c'est une autre histoire. Ce qui peut être intéressant, c'est que dans un roman, Le Train perdu, Fantomas comprend, en même temps qu'Hélène, qu'elle n'est pas sa fille. C'est-à-dire que pendant une dizaine de romans, il a tout fait pour qu'Hélène l'aime. Il n'arrête pas de lui répondre « Je veux que tu m'aimes ». Fantomas, qui est capable de voler l'or du dôme des Invalides à Paris, Fantomas s'acharne sur cette jeune femme pour qu'elle l'aime, pour qu'elle devienne sa fille. Et au moment où il comprend qu'elle n'est pas sa fille, il lui dit, le narrateur nous explique, au lieu de l'enfant de Fantomas, de cet enfant qui vivait sans doute, mais qu'il ne connaissait point, on avait mis, la vieille nourrice Laetitia avait mis un autre bébé, le bébé qui était alors élève. Donc là, on peut s'interroger. Fantomas, enfin, vous apprenez tout d'un coup, tu n'es pas mon enfant. On peut se penser qu'il pourrait partir en quête de trouver sa véritable fille. Non, on n'en parle plus jamais. Et il décide que même si Hélène n'est pas sa fille, elle doit l'aimer comme sa fille. Comme si la force de la volonté de Fantomas pouvait tordre le cou à l'ensemble des faits. Il y a une citation de Victor Hugo dans Hernani que j'aime beaucoup pour caractériser Fantomas. Une force qui va. Hein, une force qui va. La force de la volonté. Fantomas décide et il accomplit. Les choses se font il plie les choses pour qu'elles soient conformes à ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. À partir de là, de la biographie de Fantomas, on est au premier roman. Et si on considère la liste des 32 romans, on peut voir que on pourrait les relire comme les aventures de Fantomas à la poursuite de son propre roman familial, comme si Fantomas était lui aussi un écrivain qui voudrait écrire sa propre histoire. Une histoire qui se matérialiserait dans la réalisation concrète d'une famille idéale selon lui. Donc la famille idéale selon lui, il n'y a pas de mère, ou alors Lady Beltham, qui finit folle, hein, qui finit par se suicider. Et surtout, un amour inconditionnel porté par les enfants pour le père. Donc l'amour d'Hélène ou l'amour de Vladimir. Un amour destructeur, vorace, une soumission totale. Et dans les romans qui s'enchaînent, nous avons donc Fantômas qui va revenir vers son passé. Il va retourner en Esvelmar, il va retourner au Mexique, retourner en Afrique du Sud. Fantômas, homme puissantissime, qui arrive à faire trembler les gouvernements, revient sur ses pas pour écrire, corriger, réécrire sa propre histoire. Un homme qui n'a pas de nom, qui n'a pas de visage, qui n'est que l'incarnation même de la peur, qui veut devenir un père. Donc ces cycles se succèdent. Hein. Le premier, ça va être le cycle des amants tragiques, hein, celui qui va voir la mort de Lord Beltham dans le premier roman, et Fantômas qui va tenter de vivre son histoire d'amour avec Lady Beltham. Donc celle-là, c'est une histoire splendide, parce que Lady Beltham est une femme de bien. Malheureusement, l'amour est plus fort que tout, et elle met l'incarnation même du mal. Elle va tenter, avec ses propres moyens, d'empêcher les méfaits de Fantômas. Elle va même tenter de les faire vivre en couple. Ils partent tous les deux se cacher en Angleterre. Fantômas se fait passer pour un médecin. Il y a une clientèle qui l'apprécie. Et Fantômas s'ennuie. Hein, il va rapidement la tromper. Étant échafaudé, un plan assez incongru pour partir à l'étranger et s'enfuir. Il est symptomatique que le roman La Guêpe Rouge, qui est celui de la mort de Lady Beltham, va être celui de l'apparition définitive d'Hélène dans la série. Hélène, qui est un personnage complexe, parce qu'à la fois faire valoir avec une psychologie assez simple, hein, elle fait le bien, elle refuse que son père fasse le mal, et elle aime Jérôme Fandor. Voilà, tout est dit. Mais sa complexité va venir justement du fait qu'elle est le centre qui va toujours attirer Fantômas vers elle. Quoi qu'elle fasse pour se cacher, il arrive toujours à la retrouver et à faire payer ceux qui peuvent être trop proches d'elle. Fantômas, bien sûr, fait tout ce qu'il peut pour empêcher le mariage entre Jérôme Fandor et Hélène, tout en étant incapable de tuer Fandor, parce qu'il sait que ce serait la fin et que cela amènerait Hélène à disparaître elle aussi. Autre cycle, autre enfant, celui de Vladimir. Alors, Vladimir, on le connaît peu ou mal, parce que lui, il n'a jamais été adapté à l'écran. Hein, c'est le mal-aimé de la série. Donc c'est un prince qui va tenter de devenir un Fantômas à son tour. Il va tenter de devenir un criminel. Il va tenter de plaire à Fantômas. Mais comment est-ce qu'on peut plaire à un père aussi exigeant, dominateur, destructeur? Vladimir ne peut pas devenir un autre Fantômas. Fantômas a déjà son double, souvenez-vous, c'est Juve. Donc Vladimir va être ce que Fantômas n'est pas. Il va être sentimental. Hein, Vladimir va tomber amoureux. Il y a dans le bouquet tragique cette scène terrible où Fantômas va tuer la fiancée de Vladimir. Alors, on pourrait faire de la psychanalyse de cuisine, mais aussi. Vu qu'il la tue lentement en lui enfonçant une longue aiguille dans le cœur. Il y a des moyens plus simples, mais c'est Fantômas. On peut voir quand même dans cette image de pénétration tous les troubles qu'il y a dans le rapport de Fantômas avec son idée de la famille. Fantômas qui va donc détruire Vladimir. Vladimir finira tué par Juve dans le bateau fantôme. Étonnant d'ailleurs. Nous avons une fresque qui a comme scène principalement la France, souvent l'Europe, quelquefois le monde entier, mais qui va systématiquement se réduire aux membres d'une même famille. Encore une fois, on est dans la tragédie. Nous avons une histoire qui embrasse des personnages qui tous représentent beaucoup plus que ce qu'ils sont. Le dernier volume de la série a un titre splendide, La fin de Fantômas. On peut l'entendre dans deux sens. Ça peut être la fin au sens de la mort physique du personnage, mais aussi la fin au sens de la fin des romans. Jean-Claude Vareille qualifiait la série des romans de Fantômas comme étant des romans de l'interminable, hein, les romans qui ne peuvent pas avoir de fin. Et avec raison, la fin de Fantômas va être doublement insatisfaisante, d'une part parce que la mort, on n'y assistera pas, et que la fin du roman, et les communications de la suite de l'après-midi nous le prouvent, montre bien que si le livre s'arrête, le personnage continue. Donc une fin épique, tragique. Dans le dernier roman, Fantômas multiplie les coups de force. Il monte sur la scène du théâtre des Folies Françaises. Il monte sur la scène, dans un cirque, il monte sur la scène de l'opéra. Il attaque Paris, il tue les Parisiens. Impitoyablement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il choisit un lieu de théâtre, un lieu de représentation artistique, comme s'il se mettait lui-même en scène une dernière fois. Regardez-moi, voilà Fantômas, et je suis en train de vous tuer. Le dernier livre est magistralement construit. Nous avons un mélange entre scène intime, entre moments de bravoure, qui est quasi idéal. Pour faire une parenthèse, disons que sur les 32 romans, si vous devez écrire un roman par mois, indubitablement, vous allez avoir recours quelquefois à des services de nègres qui seront là pour vous permettre de produire. Et dans les 10 derniers volumes, il y en a quand même quelques-uns qui sont très faibles, qui n'ont rien à voir, qui sont vraiment des histoires indépendantes. Et on a vraiment la sensation que Souvestre et Alain ont supervisé le tout de très très loin. Donc revenons à Paris qui est en train de châtier, enfin à Fantômas en train de châtier Paris. Fantômas a décidé d'en finir dans ce dernier livre. Il n'a pas décidé d'être arrêté, il a décidé d'en finir. C'est lui qui va tuer les uns après les autres tous les membres de son organisation. C'est lui qui va manipuler Juve, et par extension Fandor et Hélène, pour les amener exactement à l'endroit qu'il souhaite, c'est-à-dire à bord du Gigantique. Paquebot luxueux, et ce n'est pas rien, c'est Paquebot qui finira par sombrer en percutant un iceberg. Je vous rappelle que la White Star, compagnie britannique, possédait dans sa flotte 3 navires d'exception, qui étaient 3 navires identiques. On avait l'Olympique, le Gigantique, et le troisième était le Titanic. Donc Souvestre et Alain n'utilisent pas le Titanic, bon, mais vont nous redonner exactement la même chronologie des événements, si ce n'est qu'en réalité c'était Fantômas qui avait planifié tout cela. Fantômas qui avait choisi le cadre ô combien théâtral. Là, cette fois, le monde entier regarde de sa propre mort. Imaginez un duel entre Juve et Fantômas à bord d'un paquebot qui sombre au fin fond de l'Atlantique. Une lutte sans pitié. Juve parvient in extremis à mettre Hélène et Fandor en sécurité dans une des dernières chaloupes. Au même moment, des câbles arrivent venant d'Europe, où on apprend que la gare du Nord s'est écroulée à Bruxelles. On apprend que des bombes ont fait exploser le palais de l'Escurial en Espagne. Bon, rassurez-vous, Sa Majesté est indemne. Seuls les ministres sont morts. En un mot, quand Fantômas meurt, et j'insiste, quand il choisit le moment où il va mourir, il détruit l'Europe. Il fait exploser le monde. Et nous arrivons là à ces dernières pages splendides où Fantômas va mourir, des centaines de passagers avec lui, le monde s'embrase. Et son dernier geste sera en destination de son frère, quand, dans un dernier mouvement, Fantômas lui tend la main, enfin tend la main vers Juve. Juve ne prend pas la main tendue. Il lui dit simplement « c'est justice ». Ça s'arrête là. Ça sombre. On ferme le rideau. Fantômas meurt invaincu. Il n'a pas été arrêté. Son organisation n'a été démantelée que par lui-même. Et sa disparition est un embrasement général, presque prophétique, de la Première Guerre mondiale qui va surgir quelques mois après l'apparition du volume. D'une certaine façon, ce flamboiement cache un échec. L'incapacité de Fantômas de s'être jamais fait aimer de celle qu'il appelait sa fille, son incapacité à terminer l'écriture de son propre roman familial. Là où Souvestre et Alain ont réussi à aller jusqu'au bout de leur entreprise, Fantômas, lui, échoue et son manuscrit reste à l'état de projet. Pour terminer, des questions évidentes. Quel est le nom d'Hélène? 32 romans, elle n'a qu'un prénom. Juve, quel est son prénom? 32 romans, il n'a qu'un nom. Pourquoi est-ce qu'on ne saura jamais le nom du père de Juve et Fantômas? Est-ce que ça veut dire que Souvestre avait dans l'idée que peut-être il pourrait reprendre plus tard? Bon, il est vrai qu'il a été emporté par la maladie quelque temps après. Enfin, on est dans l'expectative la plus parfaite. Plus encore, qu'est devenue la fille de Fantômas? Et peut-être la question la plus importante, pourquoi Fantômas a-t-il fait tout cela? Pourquoi tous ces morts? Mais parce que, enfin, des morts, il y en a des centaines. Pourquoi tant de perversion, de folie, d'horreur dans tous ces morts? Qu'est-ce que Fantômas a accompli dans tous les méchants, dans tous les vilains de la littérature? Ils veulent tous soit devenir maître du monde, avoir le pouvoir, devenir richissime. Fantômas n'a jamais désiré tout cela. Il n'a jamais voulu conquérir, au sens où il n'a jamais voulu devenir responsable d'un État, d'une nation, de rien. Il a voulu que sa fille l'aime. Ça, c'est certain. Il a voulu que l'on ne sache rien de lui. Il a voulu disparaître. Ça aussi, c'est sûr. Mais ce qui est peut-être le plus inquiétant chez lui, c'est que la somme de tous ces crimes, la mégalomanie qui les caractérise, la folie qui les caractérise, n'aboutit qu'à une espèce de tout ça pour ça. Et là, on se demande à quel moment les auteurs se sont posé la question. Est-ce qu'ils se sont jamais posé la question de « Bon, ben, on a créé ce génie du crime, qu'est-ce qu'on en fait maintenant ?» Il nous raconte toute une série d'aventures et nous avons ce mouvement tardif qui essaie de nous expliquer quelque chose, qui essaie de rétablir une cohérence interne, là où le rythme même du roman populaire empêche toute cohérence. Alors, deux choses l'une. Soit nous pensons qu'il y a une négligence de la part d'auteurs trop pressés par leur éditeur, soit nous parvenons à accepter que finalement la puissance de Fantômas est bel et bien d'être le maître de tous et de tout, c'est-à-dire d'être celui qui est capable d'imposer le silence à ses propres créateurs et le personnage qui est capable d'imposer à ses auteurs de ne jamais trop en dire sur lui.